ce sont des situations qui sont comparables à celles dans des pays dans un état de guerre. Et je n'ai jamais vu personnellement des enfants dans un état de dénouement comme les enfants au sud de Madagascar, qui ne bougent pas, ne rient pas, ne font pas de bruit. Moi, j'ai une fille de 3 ans qui fait plus de bruit que 200 enfants malnutris au sud de Madagascar dans un centre de santé.
Il s'agit de la première et seule famine liée au changement climatique aujourd'hui sur Terre, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Nous sommes à Madagascar, ancienne colonie française, indépendante depuis 1960, plus précisément dans la région semi-aride du Grand Sud de l'île. Il y a d'autres famines dans le monde, mais toutes sont liées à des conflits ou à des guerres civiles. À Madagascar, 2 années consécutives de sécheresse provoquent aujourd'hui une famine sans précédent. Dans cette région du sud, grande comme 2 fois la Suisse, où 80% de la population dépend de l'agriculture et donc des pluies. 1,5 million d'habitants sont menacés, c'est la moitié de la population du secteur, dont 300 à 400 000 sont déjà obligés de vendre leurs biens, leurs terres ou leur habitation pour acheter à manger.
J'ai vendu la maison pour 80 000 ariary, 18 euros, et ça n'a même pas suffi pour nous nourrir une semaine. J'ai 6 enfants. Celui-là, 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 celui-là et puis celui-là.
Les enfants, entre 6 mois et 5 ans, sont en première ligne et souffrent pour beaucoup de malnutrition sévère, dont on sait qu'elle peut conduire à des retards de développement physique et cérébraux. Voilà donc un des pays les plus pauvres de la planète, qui contribue le moins au dérèglement climatique, première victime des hausses de température et des baisses de pluviométrie. Mais la réalité est plus complexe. Si on dit d'elle qu'il s'agit de la première famine climatique, dans cette région du Grand Sud, la sécheresse et la faim sont récurrentes depuis plus d'un siècle. Et pêle-mêle, l'inaction de l'État, la déforestation, la corruption à grande échelle, mais aussi la crise sanitaire du Covid ont largement contribué à cette situation dramatique. Aujourd'hui donc, c'est l'aide humanitaire massive du Programme alimentaire mondial, de l'UNICEF, de Médecins sans frontières, d'Action contre la faim qui permet à la population de subvenir à ses besoins. Ou encore d'autres ONG qui dispensent des conseils pour les cultures.
Comparé à nos techniques passées, on n'a pas besoin d'autant de pluie.
Non, vraiment pas autant.
On utilise des couvre-sols végétaux. Avant, on avait besoin de pluies très très fréquentes. Tous les jours pour cultiver nos champs et obtenir quelque chose.
Direction donc la région de Lanjoy, à la pointe sud de l'île. Madagascar, la famine est-elle une fatalité? Un reportage de Rémi Brancato avec Alexandra Bergel à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes dans le village d'Ando-Oran et nous allons rencontrer des familles qui ici souffrent de ce qu'on appelle le kéré en dialecte local, la faim, qui sévit ici depuis plus de 2 ans. C'est un des endroits de la région les plus touchés par la malnutrition alimentaire. Nous nous installons devant une case au mur en terre cuite, sous un abri de paille. Et une mère de famille s'approche de nous, avec son enfant dans les bras. Salama, bonjour, asseyez-vous.
Je m'appelle Jafet Joroé, j'ai 32 ans et 5 enfants.
Il y a dans vos bras un bébé?
Oui, elle a 8 mois, c'est une fille. Il y a un problème, c'est le kéré. Mon enfant souffre de malnutrition. Nous, les mères, nous ne mangeons pas suffisamment pour produire du lait maternel. C'est pour ça que nos enfants souffrent de malnutrition.
Quelles sont les conséquences pour votre bébé?
À cause du manque de pluie, nous n'avons aucune production agricole. Et c'est pour cela qu'on a faim. Mon bébé a des diarrhées. On n'a pas assez à manger. On n'a pas d'argent pour le soigner et l'emmener au centre de santé. Pas d'argent, pas de nourriture. C'est pour ça que mon bébé se trouve dans cet état. Mon enfant est très faible. Son avenir, je ne le connais pas. Beaucoup d'enfants sont déjà morts ici à cause du kéré. Beaucoup d'enfants sont déjà morts, beaucoup.
Cette mère de famille et son bébé sont loin d'être les seules victimes de la faim ici à Andoharan. Ce village de quelques centaines d'habitants à plusieurs heures de piste de la ville la plus proche. Les ONG mesurent ici un taux de malnutrition parmi les plus élevés de la région. Et celui qui voit au quotidien ces dégâts depuis 3 ans qu'a débuté cette sécheresse, c'est Monsieur Fiandraza, le maire de la commune. Merci. Merci beaucoup. On va ici. Merci. Monsieur le maire, est-ce que des enfants de votre village sont morts ici depuis le début du kéré ?
À cause du kéré, nous avons déploré 15 décès d'enfants de moins de 5 ans. Et environ 30 adultes. Ils sont tous morts de malnutrition. C'est à cause de la sécheresse. Depuis l'arrivée du PAM, la mortalité a certes un peu baissé. La seule nourriture que les habitants ont pu se procurer, c'est du cactus et des mangues vertes, pas encore mûres. Il y a aussi une plante dans la forêt, le fangitz. Quand on mange cette plante, on se sent rassasié. Mais elle ne nourrit pas. Même les adultes sont touchés par la malnutrition. C'est pour ça que leurs enfants sont aussi touchés. Ils finissent par mourir.
Manger des fleurs de cactus ou manger du cactus, c'est quelque chose qui rend malade les habitants ?
Oui, ça se transforme en poison parce qu'ils mangent du cactus vert le matin, le soir, toute la journée. Cela provoque des crises chez certains. Le corps s'affaiblit et cela provoque la mort, ce cactus et ses mangues crues.
Je vois dans votre bureau des sacs du Programme Alimentaire Mondial. Il est inscrit WFP, World Food Programme. Ces sacs, aujourd'hui, ils permettent aux habitants de votre village de survivre, de se nourrir.
Le PAM est venu il y a plus d'une semaine pour faire la distribution de nourriture. Les vivres sont conservés ici, au centre de la commune, et on les répartit dans les quartiers ensuite. Là, c'est le riz des bénéficiaires. Les gens préfèrent que le stock soit conservé ici, par sécurité.
Quelle quantité de riz reçoit chaque famille de votre village ?
À chaque distribution,
60 kilos par mois par ménage.
Est-ce que c'est suffisant pour nourrir les familles ici ?
Ce n'est pas suffisant. Un ménage compte souvent plus de 10 personnes. Certaines familles ont 8 ou 15 membres. C'est le PAM qui a choisi la quantité de 60 kilos par ménage. Mais ils ne font pas de différence selon les familles. Qu'il y ait 8 ou 15 personnes, c'est pareil. Cela dépend des foyers. Mais pour certains, les 60 kilos de riz sont consommés en 2 semaines. 2 semaines et c'est fini. 10 jours même parfois et c'est fini.
Yeah.
Bienvenue dans l'émission Prestation. Nous sommes samedi 15 janvier 2022. Et puis, maintenant, nous allons nous accompagner dans la Sierra Leone. Caméra Batiga, à Tien Madagascar, Cédric Nicolas et Gomet La France. C'est parti. Question show! Question show!
Nous sommes sortis du village et nous avons longé des champs, ceux des habitants que nous venons de rencontrer, des champs qui viennent d'être labourés. Des semis ont été réalisés pour espérer une récolte peut-être au mois d'avril, si la pluie est au rendez-vous en cette saison des pluies. Une pluie qui était totalement absente ces deux dernières années. Et nous venons d'arriver à la rivière où les habitants venaient puiser de l'eau pour leur récolte. Une rivière qui est aujourd'hui totalement asséchée. C'est un banc de sable. La saison des pluies a débuté en décembre et malgré cela, l'eau manque toujours ici. Cette rivière, c'est là que les habitants viennent s'approvisionner pour leur consommation et pour leur culture. D'ailleurs, sur la route, on voit au bord de la piste ce château d'eau en construction. C'est un projet financé par l'UNICEF. Ici, les organisations internationales sont pléthores et depuis le début de cette crise alimentaire, l'action humanitaire s'est intensifiée dans les régions du Grand Sud de Madagascar, avec de l'aide notamment pour ces enfants qui sont les premières victimes de la faim. Ainsi, les humanitaires vont de village en village.
Nous sommes bienvenus à Mahab Meeting.
Nous arrivons effectivement à Mahabo Mitindo. C'est le village où s'installe pour aujourd'hui la clinique mobile d'Olivier et de ses collègues.
Bonne année.
Et les équipes d'ACF, d'Action contre la faim, installent la clinique mobile sous cet arbre au centre du village. Une natte est installée, des femmes approchent, des enfants dans les bras, très silencieux, très calmes, comme éteints. Une trentaine de femmes qui viennent pour consulter et vérifier l'état de santé de leur enfant qui souffre de malnutrition. Olivier, ces femmes se sont installées sous l'arbre là avec leurs enfants qui souffrent de malnutrition. Vous avez installé vous votre matériel, des tables, des instruments de mesure, de pesée. Qu'allez-vous faire maintenant avec ces enfants ?
En tant qu'infirmier, mon travail c'est de vérifier l'état de santé de l'enfant et renforcer la sensibilisation des mères. Nous apportons aussi aux enfants du plum peanut en dose. C'est une pâte d'arachide très nourrissante et facile à utiliser. On leur apporte une ration tous les 15 jours.
C'est une petite fille de 6 mois qui s'approche maintenant pour prendre les mesures. Le périmètre du bras est de moins de 120 mm. Elle est en malnutrition aiguë sévère. On l'installe dans la balance.
4,5 kg.
La balance indique 4,5 kg. Cette petite fille a 6 mois. Sa mère ramène les sachets vides des doses de pâte d'arachide qu'elle a donné ces deux dernières semaines à son bébé pour le soigner. Olivier, cette petite fille, on vient de faire la peser.
Oui, j'ai toujours besoin d'aide parce qu'il y a diminution du poids.
Elle a perdu du poids.
Elle perd du poids.
C'est un véritable défilé ici, sous cet arbre au centre du village, qui se répète tous les 15 jours pour les infirmiers. Une trentaine de mères de famille se sont installées avec leur bébé dans les bras, les unes après les autres. Elles le portent dans la balance, laissent les humanitaires d'ACF prendre des mesures de croissance, le tour de bras notamment.
Je m'appelle Rameti, j'ai 29 ans, j'ai 3 enfants. Mon garçon a 14 mois.
Louis Modeste, vous êtes un des infirmiers d'ACF. Quel poids fait cet enfant à l'âge de 14 mois?
8 kilos. 14 mois, 8 kilos.
Il est en état de malnutrition aiguë sévère.
Malnutrition aiguë sévère.
Il a de la toux, fièvre, diarrhée.
C'est la première fois que vous venez ici, madame?
Je suis venue il y a 2 mois et demi. Mon fils n'arrive pas à manger, à part des doses de pâte d'arachide. Moi, je n'ai que du bouillon de plantes à lui donner.
Votre enfant a mal au ventre?
Son ventre gonfle. Et ensuite, il a des diarrhées. Alors, il crie beaucoup. Il souffre. Il n'y a rien à manger chez nous parce que ça fait maintenant 3 ans qu'il n'y a pas eu de pluie.
Les ONG tentent de sauver les enfants dans leur village, mais les conditions de vie sont dures, souvent peu ou pas d'eau et une hygiène forcément limitée. Malgré l'aide nutritionnelle, certains n'arrivent toujours pas à guérir. Dans ces cas-là, les plus graves, il faut les transférer à l'hôpital de Bekili.
Allô ?
Oui, Diane ?
Bonjour.
Bonjour, c'est à nouveau Rémi. On est arrivé à l'hôpital.
Vous êtes... Oui, c'est ici.
Vous êtes ici, d'accord. Vous nous avez vus.
Bon, ok.
Bonjour.
Bonjour.
Donc nous sommes dans cet hôpital au centre de Bekili, un bâtiment assez vétuste. Et c'est ici que se trouve un CRENI, un centre de récupération nutritionnelle intensive. C'est un centre qui s'occupe des enfants malnutris qui n'arrivent pas à récupérer malgré les soins qui sont prodigués dans les villages. Ils sont donc hospitalisés ici et nous allons rencontrer une maman qui est ici avec sa petite fille de 8 mois.
Je vais présenter la petite fille. Elle s'appelle Yurla, âgée de 8 mois. Elle vient de Pesanja.
Je m'appelle Chotinandra. Je suis venue ici parce que le centre de santé de base de mon village me l'a conseillé.
À ce moment-là, comment allait votre bébé, votre petite fille?
Mon bébé vomissait beaucoup. Et les médecins trouvaient que son poids était trop faible.
Votre bébé, votre petite fille va mieux depuis une semaine qu'elle est ici?
Oui. Son état de santé s'améliore.
Diana.
Elle pesait 4 kg 200 à son arrivée. Elle pèse 4 kg 600 aujourd'hui.
Quel devrait être le poids normal à cet âge-là?
6 kg 200.
Vous avez bon espoir que cet enfant retrouve un poids normal pour son âge?
Oui.
Oui, quand le bébé n'est plus malade, il prend rapidement du poids et atteint le poids cible.
Quand les vomissements s'arrêtent?
Oui. 200 grammes par jour minimum.
Quand le bébé prend le plum peanut, la pâte d'arachide, il prend 200 grammes par jour minimum. Le problème fondamental, c'est le lait maternel. Étant donné que la mère ne s'alimente pas suffisamment, elle n'a pas la capacité de produire du lait pour nourrir son enfant. C'est pourquoi ACF soutient les mères et leur donne 2000 ariary, 40 centimes d'euros par jour, pour qu'elles se nourrissent. Mais c'est insuffisant.
Est-ce que vous avez vu des enfants mourir ici?
Ce sont les enfants qui ne viennent pas jusqu'à nous qui meurent. Ceux que nous prenons en charge ici, on arrive à les sauver.
Je suis médecin traitant ici au CHR des deux Bekili.
Quels sont les problèmes que vous rencontrez ici à l'hôpital?
Premièrement, le problème de matériel. Par exemple, parce qu'on a besoin de thermomètres pour la surveillance des bébés et on n'a pas de thermomètre. des balances.
Comment vous vous sentez-vous quand vous voyez quelqu'un arriver et que vous n'avez pas suffisamment de matériel pour le soigner?
On se sent gêné parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à vivre. De savoir que cet enfant peut mourir d'ici, on ne sait pas, d'ici un mois, ou... c'est difficile.
Vous avez déjà vu des mères de famille avec un bébé en situation de malnutrition repartir au village et refuser une hospitalisation ici?
Il y en a beaucoup de cas comme ça.
Quel est le risque à ce moment-là si elle retourne au village avec son enfant en situation de malnutrition?
Oui, il y a beaucoup de risques. La malnutrition devient chronique et ça peut entraîner la mortalité des enfants. C'est ça le risque.
Diana, vous qui êtes infirmière, ces situations où les femmes quittent l'hôpital et refusent une prise en charge de leur enfant, vous les vivez, ces femmes retournent au village pour quelles raisons?
Le problème pour ces femmes, c'est que celle qui a un enfant malnutri a aussi beaucoup d'autres enfants au village. Alors certes, elle a peur pour son bébé, mais il n'y a personne pour prendre soin de ses autres enfants. Alors elle renonce au traitement ici pour rentrer s'occuper de ses enfants restés au village. Elle renonce au traitement et ce bébé est sacrifié en quelque sorte.
Salama.
Au bord de la piste et dans les champs très secs entre les arbustes, les cactus, on voit des habitants marcher en plein soleil, sans doute pour plusieurs heures. Dans le village tout près, une distribution du Programme alimentaire mondial, le PAM, vient d'avoir lieu. Les habitants viennent de loin, certains poussent des brouettes sur lesquelles ils ont chargé les sacs de riz de plusieurs dizaines de kilos, d'autres les portent directement sur leur dos. Ces habitants survivent grâce à l'aide alimentaire, mais d'autres ont choisi de fuir ces villages où il n'y a plus rien à manger. À quelques encablures d'Ambovombe, une des principales villes du sud, une ONG brésilienne Fraternité sans frontières a installé ce qu'elle appelle la cité de la fraternité. Elle recueille ici les réfugiés de la faim, ces exilés qui ont choisi de tenter leur chance en ville.
Se dirige vers ce grand abri où se déroule le repas pour les familles qui sont réfugiées ici dans ce village créé par l'association Fraternité sans frontières. Il y a des milliers de personnes. C'est un grand réfectoire, des tables ont été installées sous un auvent. Des centaines de personnes, femmes, hommes et enfants sont en train de déjeuner. Dans les plats, il y a du riz avec des haricots rouges.
C'est les enfants et les familles qui viennent de la cité de la fraternité, là où les familles qui sont fuient leur village pour se vivre.
Bonjour madame.
Je viens des Santa. C'est au sud, vers la mer.
Pourquoi vous avez quitté votre village, madame?
Je suis partie il y a 6 mois parce que je souffrais beaucoup à cause de la faim, du manque de nourriture. Nous sommes venus ici en ville avec mon mari. Il a travaillé comme porteur d'eau pour nourrir nos enfants.
Qu'est-ce que vous avez laissé au village?
J'ai vendu la maison pour 80 000 ariary, 18 euros. Et ça n'a même pas suffi pour nous nourrir une semaine.
Combien avez-vous d'enfants, madame?
J'ai 6 enfants. Celui-là, et puis celui-là.
Aujourd'hui, comment faites-vous pour les nourrir?
Mon mari puise de l'eau. C'est comme ça qu'on nourrit nos enfants. Il la vend 400 ariari, 9 centimes d'euros. Et parfois, il arrive à faire jusqu'à 3000 ariari par jour, 70 centimes d'euros. C'est avec ça qu'on vit.
Et où êtes-vous installé désormais ?
On habite dans ce village de réfugiés. Ils nous ont donné un toit, une maison et tout le matériel dont on avait besoin. Mes enfants sont en bonne santé désormais. Ils mangent mieux. Je suis reconnaissante qu'on m'ait donné un toit.
Merci beaucoup, madame.
On est en train de dire merci.
Alexandre.
Je m'appelle Prince Kalolo, coordinateur de Fraternité sans frontières ici à Madagascar.
On est ici tout près d'Ambovombé, le chef-lieu de la région de l'Anjouille. Nous sommes allés un peu dans plusieurs villages de cette région de l'Anjouille, voir les conditions de vie. Beaucoup d'habitants nous ont confié les difficultés qu'ils ont à se nourrir depuis 2 ans. Vous, vous retrouvez une partie de ces habitants ici parce que certains choisissent de fuir leur village pour trouver à manger ailleurs.
Parmi des villageois qui sont dans les villages, il y a les gens qui fuient de leur terrain à cause de la faim. On a vu les problèmes de sécheresse. Alors, on a commencé de construire le village qui s'appelle Cité de la Fraternité pour la prévention parce qu'il avait les signes déjà en 2017. Le projet existe depuis 2017.
Combien de personnes avez-vous accueillies au départ et combien de personnes sont aujourd'hui accueillies dans ce village de la Fraternité, cette Cité de la Fraternité?
Avant le lancement du projet, on a accueilli, c'était 30 familles. Après situation de famine, il y a presque 103 familles.
103 familles?
Oui, oui.
Combien de personnes vivent ici aujourd'hui?
On a 700 enfants et 500 adultes.
Est-ce que vous imaginiez devoir accueillir autant de personnes?
On n'a pas imaginé ça, mais on a pensé que ça ne doit pas dépasser au-delà de 100 familles. Mais ça dépasse, c'est-à-dire même nos budgets n'étaient pas correspondants de ce qu'on est en train de vivre.
Est-ce qu'on aurait pu éviter cet exode?
Oui, on peut éviter. Et la seule chose d'éviter cet exode, c'est avoir l'eau. Dans les villages, il y a parfois les villageois qui marchent 34 km, 35, 40 km pour chercher l'eau. Si on peut avoir l'eau et l'infrastructure de la route, ça peut changer le processus de cet exode.
On quitte ce village de réfugiés et le Grand Sud, cette province du bout de l'île, où les routes ne sont que des pistes souvent impraticables, en particulier pour les camions des ONG, où les villages sont isolés, où on manque d'écoles, d'hôpitaux, d'eau, de tout, et où la plus grande peur serait de vivre une troisième année sèche. Nous retrouvons Rémi Brancato et Alexandra Bergel à Antananarive, 3,5 millions d'habitants, la capitale politique et économique de Madagascar. Entre embouteillage et pollution, l'ambiance y est bien différente.
Interception sur France Inter.
Madagascar compte 26 millions d'habitants et selon les dernières estimations, dans le Grand Sud, l'insécurité alimentaire au sens large touche 1,5 million à 1,6 million personnes. Ce sont les chiffres de l'IPC, c'est le cadre de classification de référence pour toutes les organisations internationales qui interviennent ici dans le pays. La faim est liée au changement climatique selon le Programme alimentaire mondial, mais les régions du Sud manquent surtout cruellement d'infrastructures. Alors, pour comprendre les causes de cette crise et tenter d'en ébaucher les solutions, nous sommes dans la capitale malgache, Tananarive.
Bonjour.
Monsieur Brancato, Rémi.
Bonjour.
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 Merci.
Je m'appelle Ardui Lamangoni et je suis le directeur adjoint du PAM ici à Madagascar depuis un peu plus d'une année. Ce sont des situations qui sont comparables à celles dans des pays dans un état de guerre. Personnellement, j'ai travaillé en République centrafricaine, au Soudan, dans le Darfour, au Congo, et je n'ai jamais vu personnellement des enfants dans un état de dénouement comme les enfants au sud de Madagascar. Des centaines d'enfants dans des centres de malnutrition sévères qui ne bougent pas, ne rient pas, ne font pas de bruit. Moi, j'ai une fille de 3 ans qui fait plus de bruit que 200 enfants malnutris au sud de Madagascar dans un centre de santé.
En cumulant dans le Grand Sud tous les acteurs humanitaires, on arrive à 1 500 000 personnes environ qui ont reçu de l'aide dans le courant de l'année 2021. Les projections aujourd'hui nous donnent toujours 1 600 000, voire 1 700 000 personnes qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'il n'y a pas là la preuve de l'impuissance de cette action humanitaire ?
Le PAM, les autres acteurs, incluant le gouvernement, n'ont pas réussi, pour de différentes raisons, à inverser cette tendance. Ce n'est pas facile aussi de mettre en œuvre ces programmes d'assistance dans le sud de Madagascar. On a des problèmes, tous les acteurs sont confrontés à des défis logistiques, donc des retards, des irrégularités en termes d'arrivage des vivres, etc., etc. Donc toute une combinaison des facteurs qui ont sans aucun doute contribué au fait que on n'a pas réussi en général à renverser cette tendance. Le défi demeure, les récoltes d'habitude au sud de Madagascar sont relativement pauvres. Et s'il n'y a pas un changement de tendance, une inversion vers le développement qui va prendre du temps, on ne réussira pas à relever ces gens pour qu'ils puissent marcher sur leurs pieds de nouveau.
Est-ce qu'on sait si la pluie sera de retour en cette année 2022 ?
Selon les derniers rapports, les pluies à partir d'octobre jusqu'à décembre ont été très très limitées au sud. Et ça aura véritablement un impact sur les prévisions de la récolte d'avril 2022.
Est-ce que le fait que ces terres n'aient pas connu de pluie et aient été soumises au vent sec a rendu certaines exploitations agricoles infertiles ?
Tout à fait, à cause des tempêtes de sable. La terre agricole a diminué. Et deuxièmement, à cause des sécheresses tout le long des années passées, les gens se sont endettés. Une partie importante des revenus de la récolte prochaine, si elle sera une bonne récolte, doit être utilisée pour repayer les dettes. Donc ça, ça va avoir un impact sur la capacité des gens de se remettre sur pied, de pouvoir sortir de cet état d'insécurité alimentaire.
On parle de famine climatique, mais c'est un raccourci ou un moyen d'attirer l'attention et d'appeler à l'aide. Les défaillances de l'État malgache sont tout aussi responsables de la situation. Il est même accusé d'avoir abandonné ce Grand Sud. Pour compenser, le gouvernement a promis de grands investissements. 141 projets au total, la réfection de la Nationale 13, principale artère économique de la région, des soutiens à l'agriculture, la construction de centres de santé de proximité... Et puis un pipeline de transport d'eau pour approvisionner la région de Landjoy, une infrastructure de 70 km qui permettrait d'arroser 2000 hectares de terre et de fournir de l'eau à 60 localités. Rémi Brancato et Alexandra Bergel ont rendez-vous avec Arlis Anjarasoa, la directrice des infrastructures auprès du gouverneur de cette région.
Ils vont utiliser le système pipeline pour amener l'eau de Ifaro vers Mbouvumbe en passant par différentes localités qui vont aussi irriguer ou arroser des champs de culture, ramener l'eau exactement jusqu'ici pour utilisation domestique aussi.
La présidence de la République a promis un début des travaux pour le mois de janvier. Est-ce que les travaux ont débuté ?
Oui, les travaux ont déjà débuté déjà à la fin de l'année dernière.
Quand l'eau arrivera-t-elle ici en Mbouvumbe ?
Ils n'ont pas encore communiqué, leur calendrier, mais ils ont promis que, enfin, ils ont communiqué aussi que les projets vont être faits et que le budget est déjà disponible.
Certains acteurs du développement ici nous ont expliqué que d'autres gouvernements avant celui-là avaient déjà promis l'arrivée de l'eau dans la région. Est-ce que les populations croient encore à ce type de promesses ?
Ok, ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, c'est qu'on a aussi discuté avec le ministre de l'Eau la dernière fois qu'il est venu. C'était toujours comme ça, même avec le projet de construire les routes nationales. Ça a été toujours une promesse qui n'a pas été tenue. Donc actuellement, le peuple, la population croit encore à la possibilité que le gouvernement va faire les travaux qu'ils ont promis. Par contre, on ne peut pas croire à 100%.
Il y a aussi une promesse de rénover les routes. On les a empruntées, les routes nationales ici, notamment la RN13. C'est en fait une piste quasiment impraticable si on n'a pas de pick-up, de 4x4. Quand cette route sera-t-elle rénovée ? Le président l'a promis également.
Oui, beaucoup de choses se sont passées depuis la promesse du président, mais je crois que le défi que lui-même s'est lancé était très grand. D'après ce que je connais peu de lui, je pense qu'il va vraiment faire.
Est-ce qu'il y a des freins justement à ce développement, également un problème lié peut-être à la corruption ?
Oh, c'est pas faux.
Quelle forme prend-elle ?
On voudrait que les employés, le personnel travaillant dans les partenaires techniques et financiers que nous avons soient des gens locaux, soient des ressources humaines locales. Mais parfois, ça n'est pas toujours le cas parce que les gens connaissent d'autres personnes et ils appellent leurs amis pour venir. Ça, le népotisme, par exemple. Et d'autres fois aussi, puisqu'on ne connaît pas l'existence de leurs activités, ils font ce qu'ils veulent là-bas et prétendent de vraiment faire quelque chose et puis il n'y a rien qui se passe.
En attendant ces infrastructures, en attendant que l'eau arrive, les paysans peuvent-ils résister à des sécheresses récurrentes ? Une ONG le pense et elle aide des agriculteurs du Grand Sud à changer leurs pratiques pour mieux résister. C'est le CTAS, le Centre Technique Agroécologique du Sud. Stéphanie Andoniain, la directrice adjointe, nous emmène dans le village de Karoké, où les paysans ont changé leur technique et souffrent moins du vent qui assèche les terres. Donc là, Stéphanie, on est entré dans le bloc agroécologique.
Oui, oui, c'est ici donc le bloc agroécologique de Karkmanjuran, le premier bloc agroécologique que le CTS a mis en place. Donc ici, on voit des bandes, des cultures vertes en bandes. Ce sont les cajanus là.
Ah oui.
Ça va servir de prise-fond.
Ce sont des cultures qui sont plantées en barrière pour protéger chaque parcelle.
Oui, oui.
Les cajanus, c'est quoi ?
Le cajanus ou pois d'angol. Le pois d'angol, c'est une légumineuse. Ouais. Donc ça donne des gousses. C'est comme le petit pois, ça a un goût de petit pois.
On arrive auprès des cases en bois de ce petit hameau. Et ce qui est impressionnant ici, c'est que tout est vert. On est au début de la saison des pluies, qui ne sont pas très abondantes. Il y en a eu un petit peu depuis quelques semaines. Et pour autant, ici, on a l'impression que les cultures se portent très bien.
Donc ici, on voit quelques producteurs qui sont les premiers qui ont tout de suite accepté d'intégrer le bloc agroécologique depuis 2014.
Qu'est-ce qui est cultivé ici ?
Tout ce qu'on voit là, surtout, il y a les bandes de cajanus, il y a les cultures de céréales résistantes, il y a le mil ou le sorgho.
On le sent, le vent est fort ici, mm-hmm. Et c'est un vent qui a tendance à assécher les terres.
Mm-hmm. À assécher et aussi, surtout, à emporter la partie fertile.
Ici, avant l'arrivée de ces blocs agroécologiques, il y avait des cultures qui finalement n'étaient pas très adaptées à un climat... quasiment aride.
Avant, il n'y avait que, par exemple, les cultures de maïs, les patates, qui n'arrivaient pas vraiment à protéger le sol. Donc, ça va former que des sols appauvris.
Ici, c'est un des tout premiers blocs agroécologiques que vous avez mis en place. Est-ce qu'il fonctionne bien ?
Oui, ici, c'est vraiment, on peut dire qu'il réussit. D'abord, l'objectif, c'est ça. de produire pour les paysans, pour qu'ils aient quelque chose à manger. Et en plus de ça, de diversifier l'alimentation. Et ici, c'est vraiment une réussite pour nous, puisque le CTS était là pour donner le semence. Puis après, lorsqu'ils ont vu l'intérêt de tout ça, l'adoption s'est faite spontanément.
Oui. D'autant que les graines, les semences, mm-hmm. sont reproduites localement par les paysans.
Oui, c'est ça. Et les producteurs eux-mêmes, ils vont carter une partie lors de la période de récolte et ils vont ressemer après.
Je m'appelle Laura Anoué, je suis agricultrice et paysanne relais.
Salam.
Bonjour, moi c'est Mandelimana, je suis paysan référent.
Ici, vous pratiquez une agriculture différente d'autres villages. Quel est l'avantage de ces nouvelles cultures par rapport à ce que vous faisiez avant ?
D'abord, on a procédé à la plantation de cajanus. Elle sert de bouclier contre le vent. C'est un gros avantage. Et puis quand les feuilles tombent, elles se décomposent et ça améliore la fertilité de la terre. En plus, les graines du cajanus se récoltent, on peut les manger et les revendre. Et on l'utilise aussi comme bois pour la cuisson au feu.
Est-ce que la production a augmenté sur vos terres?
Oui, la production a beaucoup augmenté depuis qu'on a suivi ce projet du CTAS.
Oui, c'est sûr.
Est-ce que vous avez besoin d'autant de pluie qu'auparavant?
Comparé à nos techniques passées,
Non, vraiment pas
on
autant.
On n'a pas besoin d'autant de pluie. Parce que le mil est beaucoup plus facile à cultiver. On n'a pas besoin d'eau. On utilise des couvre-sols végétaux. Avant, on avait besoin de pluies très très fréquentes, tous les jours, pour cultiver nos champs et obtenir quelque chose.
Est-ce que ça vous a permis de moins souffrir du kéré, de la faim ces deux dernières années?
Oui, ça nous a rendus plus résistants. On souffrait, par exemple, du manque de bois. Et grâce aux plantations conseillées par le CTAS, on peut se fournir en bois. Pour manger, nous avons maintenant ce cajanus, qui résiste bien à la sécheresse.
C'est mieux pour l'environnement aussi, pour le climat?
Ça appelle la pluie de ne pas couper les arbres, comme nous le faisions avant. Quand la brume arrive, elle se pose au-dessus des plantes et ça humidifie la terre. Ça peut vraiment nous sauver, oui, si d'autres suivent l'exemple. Il faut qu'ils plantent la papaye, le mil, le sorgho, le corosol et tout le reste.
Moi, je m'appelle Ranaïf Harmanana Tulchayensu. Je suis donc la directrice exécutive de l'ONG CTAS, Centre technique agroécologique du Sud.
On dit que la famine ici est due au changement climatique. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans cette région.
Dans les littératures, peut-être, vous pouvez voir, il y a plusieurs phases de famine, de kéré dans le Sud, qui datent depuis longtemps. Mais en 2020, par contre, c'était la plus grosse que j'ai pu observer de moi-même. Mais ce qui manque vraiment ici, c'est vraiment les techniques adaptées. Par exemple, si nous allons en Israël, ils ont les infrastructures assez vastes, des techniques micro-irrigation, par exemple, de goutte à goutte, qui permettent à irriguer des vastes étendues, des hectares même, pour nourrir la population. Si nous allons dans le sud de l'Inde, par exemple, eux, ils adoptent plutôt les variétés qui résistent, qui n'ont pas besoin beaucoup d'eau, comme le millet, comme le sorgho. Si on n'opte pas sur l'irrigation proprement dite de la culture, au moins on devrait adapter des cultures qui s'adaptent aux conditions climatiques.
Ces blocs agroécologiques, ils permettent aux paysans de produire par eux-mêmes, de produire des semences par eux-mêmes. Ils permettent aussi, plus on multiplie le nombre de terres concernées, de faire barrage au vent qui ensable les champs et de lutter contre ce changement climatique, de lutter contre les effets de ce réchauffement ici dans le Grand Sud. Combien de blocs agroécologiques avez-vous mis en place? Et est-ce que vous commencez à ressentir les effets de ces projets?
Là, actuellement, on va atteindre les 6 000 hectares avec 7 200 bénéficiaires à peu près, 7 200 ménages. Donc, fois 4, ça fait 21 000 personnes. Effectivement, hein, en 2020, nous avons mené une enquête et il y a beaucoup de ménages qui ne se sont pas immigrés par le fait que les cultures qui existaient dans les blocs agroécologiques fructifient encore. Donc ils étaient là encore une fois à récolter les cultures bien que tout meure en fait.
Donc la famine, le kéré n'est pas une fatalité?
Pas seulement pour le Sud, hein. Ce n'est jamais une fatalité.
Madagascar, la famine est-elle une fatalité? Un reportage de Rémi Brancato, prise de son Alexandra Bergel, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Cédric Châtelus. Reportage disponible dès maintenant à la réécoute sur franceinter.fr.